Le Mac de Cahors, c'est maintenant Gilles Barré. Madame, monsieur, bonjour. Deux invités dans le Mac de Cahors aujourd'hui. La première partie est consacrée à l'aéroclub du Quercy, à l'Albinque, dans le Lot, une école de pilotage et de parachutisme qui brille de plus en plus par les médaillés que ses élèves décrochent aux championnats de France et mondiaux. Et dans la seconde partie, on évoquera l'ouverture prochaine d'une micro-crèche à Pradines en novembre prochain. La première partie du Mac de Cahors tend le micro aujourd'hui à l'association Aéroclub du Quercy, l'aérodrome de l'Albinque à Cahors, une école de pilotage aérien et de parachutisme depuis de nombreuses années. On dénombre aujourd'hui plusieurs licenciés médaillés à des championnats nationaux et mondiaux. Par exemple, Louis Vanel, champion du monde de voltige en 2019. Il y en a beaucoup d'autres médaillés. Également, je pense à Pascal Dumarsay, sacré championne du monde par équipe l'an passé et qui a décroché récemment la médaille de bronze au championnat d'Europe d'atterrissage et de précision. Monsieur Claude Miquel est le président de l'association Aéroclub du Quercy. Bonjour.
Oui, bonjour à tous. Donc, Claude Miquel, donc je suis le président effectivement de cette association de la loi 1901. Donc c'est un club qui a été créé en 1934 à l'occasion de la création du terrain qui lui a été ouvert donc en 1935. Donc là, c'est un terrain qui était très court en herbe avec une piste de moins de 600 mètres, donc qui n'était pas forcément très facile, mais qui a eu beaucoup de succès et qui a permis aussi de voir de belles professions, on va dire, et de belles performances, puisque il s'est créé un club de constructeurs qui ont fabriqué des poux du ciel par M. de Nazaris. Ensuite, Baboulène a fait aussi de la construction. Derrière, il y a eu M. René Fournier, qui a été le créateur d'une ligne d'avions populaire qui s'appelle les RF.
Il y a une citation sur votre site du philosophe allemand Hegel qui dit « Rien de grave ne s'est accompli dans un monde sans passion ».
Oui, oui, la passion, oui, puisque le club existe donc depuis déjà pas mal d'années, a toujours poussé pour pouvoir développer en fait l'aviation légère, et donc par toutes les actions, et chaque pilote et tout ce que vous avez évoqué par rapport à Louis Vanel et à d'autres qui forme régulièrement. Aujourd'hui, on a une activité avec les PIA, où là aussi, on a des très belles réussites pour des jeunes qui ensuite vont vers des métiers de l'aéronautique. On a mis en place, si vous voulez, avec le collège et lycée, justement ce partenariat pour pouvoir montrer aux élèves ce qui se passe et aussi les faire voler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque élève du BIA, s'il le souhaite, peut faire un premier vol aux commandes d'un avion avec un instructeur. Bon, on leur demande une petite participation financière et donc ils font globalement une première demi-heure de vol. Et puis si ensuite ils ont leur brevet, donc leur BIA, on leur offre par contre une deuxième demi-heure de vol. Et à savoir que, bon, là, ils payent rien. Nous, club, on finance une partie. Et la Fédération française aéronautique finance une autre partie également.
On peut savoir le budget à consacrer pour une formation à peu près, une fourchette, une échelle?
Alors, pour faire un brevet complet, on va dire que c'est entre 6 et 7 000 euros. Ensuite, l'activité en elle-même pour un pilote confirmé qui vole régulièrement pour se faire plaisir et emmener ses amis. Bon, globalement, c'est un budget qui attend, on va dire, entre 1500 et 2500 euros par an.
Alors, tout à l'heure, je citais Louis Vanel, qui, je rappelle, a été champion du monde, de voltige aérienne en 2019.
Il est triple champion du monde, triple champion de France et récemment champion d'Europe en équipe.
Oui, rien que ça.
oui, c'est un personnage qu'on aime bien. Alors, il est parrain actuellement des élèves BIA de la session 2023-2024 du collège de Préissac. Et il viendra à Cahors dans très peu de temps, je pense, ça devrait être au moins le 13 novembre, si ma mémoire est bonne. Il viendra avec un avion de voltige pour voir ses filles.
Un lâcher a lieu au bout de combien d'heures en général?
Alors là, ça dépend, je dirais, de
ça dépend
personne.
Du pilote.
Voilà, en général, les jeunes, ça se situe entre 10 et 15 heures. Et les plus âgés, ça peut être beaucoup plus.
On ne demandera pas pourquoi.
Voilà.
Quelles sont les conditions requises pour être pilote aujourd'hui?
Alors, les conditions, c'est d'être à peu près en bonne santé, on va dire. C'est-à-dire qu'on doit passer un examen médical par un médecin qualifié aéronautique. Donc, c'est un examen très complet avec électrocardiogramme, des tests réflexes en vue, équilibre, etc., etc. Ce qui permet donc d'avoir un certificat médical qui est valable pour les jeunes 5 ans, pour depuis 2 ans après, puis une année pour les plus anciens, donc qui repassent le certificat tous les ans. Ensuite, faire de l'écolage en école avec un instructeur. et puis on progresse tranquillement hein, vers le. Et ensuite, il y a le théorique qui se prépare aussi, qui est un élément de qui reprend neuf rubriques entre la météo, la mécanique de vol, la réglementation, l'histoire de l'aviation, etc. Et qui permet donc, une fois qu'on a le théorique et on fait un test ensuite avec un examinateur extérieur au club, qui fait un vol en général de 2h30-3h avec l'élève, et qui décide s'il est compétent et suffisamment formé pour être diplômé et breveté PPL.
Alors, il faut quand même rappeler quand même que piloter, ça demande beaucoup de rigueur, hein, et il n'y a pas de place à l'improvisation, tant que je sache.
Jamais, de toute façon, les statistiques sont têtues, comme on dit, et dans plus de 99% des problèmes liés à l'aviation, en fait, on retrouve des fautes de pilotage.
En général, c'est quoi une faute de pilotage? C'est une faute d'appréciation de la piste, une faute de vitesse?
Oh, c'est en général une faute de pilotage, oui, c'est un enchaînement de petites erreurs. C'est rarement tout seul. Donc c'est en général des comportements qui ne sont pas conformes à ce qu'on devrait faire et donc qui enchaînent et qui entraînent jusqu'à une série de petits événements qui peuvent conduire à la catastrophe. Un exemple type, c'est la volonté d'arriver. Donc c'est la volonté d'arriver. Donc pour être dans ce cadre-là, on prend des risques éventuellement, c'est-à-dire que la météo passe pas, mais comme on est attendu ou on a prévu avec les passagers de faire ce vol-là, on continue, on se met dans un tunnel en fait, qui peut conduire à la catastrophe.
C'est le MAC de Cahors avec en première partie aujourd'hui le président de l'aéroclub du Quercy à l'Albinque dans le Lot. On se retrouve juste après Adèle, Someone Like You sur CFM Radio.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, guess she gave you things I didn't give to you. Shy, ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bitter?
Adèle, Someone Like You sur CFM Radio. Le Mac de Cahors consacré pour cette première partie à l'aéroclub du Quercy à l'Albingue dans le Lot. Nous sommes avec Monsieur Mickaël, le président du club. Peut-il arriver de mettre un terme avec un élève ou un licencié particulièrement imprudent?
Alors ça, bien sûr, ça peut arriver. On les détecte en général assez tôt pendant la formation et ça peut être, donc s'il n'y a pas un moyen de corriger ça, ça peut être effectivement une exclusion, bien sûr. On fait tout ce qu'il faut pour que ça ne se produise pas. Il faut avoir compris ça et l'admettre. Il n'y a pas d'improvisation. Tout est cadré. C'est la certification de nos machines et de nos formations qui fait que on ne doit pas déroger à ça, quoi.
Est-ce que parfois vous ressentez la peur dans les élèves, dans leur façon de piloter?
Alors, il y a toujours une petite appréhension, comme tout le monde. Je dirais que c'est normal pour tous les pilotes, de toute façon, de se poser la question. On monte dans une machine. Bon, la machine, le moteur peut avoir un problème. En général, on parle du moteur. Ça, on peut avoir d'autres soucis, comme d'avoir percuté un oiseau ou des choses comme ça. Donc, il faut y penser. Bon, mais ça se gère. Le stress, c'est un stress positif. Quelque part, on est capable de le gérer. Donc, mais bien sûr qu'il y a une petite appréhension toujours.
Quand on s'inscrit dans un club, on pense principalement, bien sûr, à pilote. Mais il y a d'autres métiers dans l'aéronautique. Est-ce que vous les formez?
Alors justement, dans le cadre du brevet d'initiation aéronautique qui est fait par l'Éducation nationale, nous sommes partenaires avec les collèges et lycées de Cahors et de Prayssac. Et donc, on accompagne, là, cette année, on a 60 enfants qu'on accompagne, donc, et auxquels on va faire découvrir le monde de l'aéronautique.
Vous nous donnez quelques exemples de ces autres métiers?
Vous avez contrôleur aérien, vous avez ensuite des ingénieurs de maintenance, vous avez des ingénieurs pour créer des avions, pour les inventer, des suivis de fabrication, toute l'assistance au sol que vous pouvez trouver dans les aéroports. Tous les métiers de la maintenance mécanique, électronique, du froid, enfin tous les électricités et autres dans tous les hangars, je dirais, de maintenance d'avions.
L'aéroclub du Quercy forme à tous ces métiers?
Ah, pas du tout. Nous, on forme essentiellement au pilotage. Chacun prend sa voie en fonction de ses envies, parce que parfois les enfants, au départ, ils n'ont pas beaucoup d'idées, et puis parfois on a de la chance de voir des jeunes qui descendent de l'avion en disant « c'est ça que je veux faire », et à ce moment-là, ils prennent les moyens pour y arriver.
On dit que la gente féminine est plus précise dans le pilotage, c'est vrai ça?
Oui et non, je peux pas vous dire. Bon, c'est vrai qu'on a malheureusement pas beaucoup de femmes, enfin pas assez de femmes, encore que nous, à l'aéroclub du Quercy, on a 15% de femmes à peu près dans nos pilotes et élèves pilotes, alors que la moyenne nationale est aux alentours de 8. Mais bon.
Vous possédez une flotte de combien d'appareils à l'aéroclub?
Donc on a deux avions, un APM et puis un Robin. Voilà, c'est alors le Robin, lui c'est du traditionnel avec un moteur Lycoming de 160 chevaux qui est assez consommateur de carburant, ce qui nous pose un problème aujourd'hui vu le prix des carburants. Oui. Mais bon, c'est comme ça malheureusement.
Est-ce que vous avez un simulateur de vol?
Alors oui, on a créé un simulateur de vol à partir d'un ancien avion, donc un PA-28. Et à l'intérieur, on l'a enfermé dans une boîte, je dirais, et on a créé donc avec des rétroprojecteurs. On crée en fait une ambiance comme en vrai, c'est-à-dire qu'on est complètement immergé et on projette sur trois murs, donc, et on se situe avec toutes les commandes de vol et un tableau de bord d'un complet d'un avion avec toutes les fonctions.
Ça veut dire que dans les formations, tous les élèves passent par le simulateur de vol?
Oui, bien sûr, ça permet de faire des simulations de mauvais temps. Quand on est en mauvais temps, par exemple, on va pouvoir travailler dans le simulateur plutôt que de voler. Et en plus, on peut développer plus vite en fait l'usage des instruments de radionavigation. Par exemple, pour faire des navigations, c'est plus simple de le faire dans le simul que de le faire en vrai.
Un petit mot sur les instructeurs, qui sont-ils ?
Alors, nous avons deux instructeurs au club, un qui s'appelle Alain Castiaux, qui est notre chef pilote, responsable pédagogique, et qui, lui, est un ancien pilote de ligne et un ancien instructeur en ligne. Ensuite, on a donc Patrick Bélivan, qui est un ancien pilote de ligne également, qui était qualifié aussi instructeur examinateur en ligne. Donc, c'est deux pilotes bénévoles, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'a que des bénévoles dans le club, et qui permettent de faire que le club puisse continuer à vivre. Alors, on recherche en permanence des instructeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué.
Merci à vous.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir, monsieur, merci.
Le Mac de Cahors se poursuit avec en deuxième partie la présidente des Maisons Bibis, madame Christelle Tourès, qui s'apprête à ouvrir une micro-crèche à Pradines dans le Lot. Alice Merton, No Roots sur CFM Radio.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Head for the next town running. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
Alice Merton, No Roots sur CFM Radio. Le Mac de Cahors se poursuit avec en deuxième partie la présidente des maisons Bibis, madame Christelle Tourès, qui s'apprête à ouvrir une micro-crèche à Pradines dans le Lot. La maison des Bibis, c'est un réseau de crèches et de micro-crèches dans Montauban et le Grand Montauban. Et dans quelques jours, début novembre, une nouvelle micro-crèche à Pradines. Madame Tourès, bonjour. Comment pourrait-on définir ce qu'est une micro-crèche ?
Une micro-crèche, c'est un établissement d'accueil de jeunes enfants qui compte 12 enfants maximum, avec 4 professionnels, dans un espace d'environ 150 mètres carrés, avec un jardin. Et une crèche, c'est plutôt des établissements de plus de 12 berceaux. Ça peut aller jusqu'à 24, 80, c'est de plus en plus rare. Et c'est souvent financé par la CAF, la mairie et les entreprises. Et les micro-crèches sont plutôt indépendantes avec des gestionnaires privés et peut y en avoir des publics. Voilà.
Est-ce que vous avez été vous-même confrontée au problème de garde d'enfants et c'est comme ça qu'est née cette idée de micro-crèche ?
Oui, tout à fait. En fait, lorsque j'ai monté le projet de la micro-crèche, j'avais vu que c'était assez compliqué pour les familles qui avaient des petits temps de pouvoir faire garder les enfants. Et la première crèche qui a été créée à Montauban, elle avait la moitié de ses places disponibles au public dit fragile. Donc, c'était à la fois un moyen de faire garder l'enfance, c'était aussi un tremplin pour revenir vers l'emploi.
Donc, une micro-crèche fonctionne différemment d'une crèche ?
On garde des enfants dans les deux cas, mais après, le modèle juridique diffère un petit peu et la législation aussi.
Le personnel chargé de l'accueil et de l'encadrement des enfants est bien entendu diplômé, j'imagine ?
Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle les diplômés, qui sont des éducatrices jeunes enfants auxiliaires de puériculture, avec de l'expérience, et les qualifiés, CAP Petite Enfance, BEP Carrière Sanitaire et Sociale, toujours pareil, avec de l'expérience, qui peuvent travailler chez nous. Là, pour la jeunesse du projet, c'est un terrain qui a été vu et ça a été un coup de cœur en 2017. Donc, vous voyez, ça date. On s'est structuré autour de l'espace, des projets autour de la ville de Pradines. On se voyait tous les ans avec les élus pour discuter de ce que ça allait devenir, comment, est-ce que c'était toujours d'actualité. Et puis finalement, ça l'a toujours été d'actualité. Et jusqu'à aujourd'hui où ça devient concret. On a les accueils réguliers, du lundi au vendredi, 5 jours semaine, 4 jours semaine, 3 jours semaine, 2 jours, 1 jour. Les accueils plus occasionnels, où c'est en fonction des disponibilités, et là la famille n'a pas de contraintes professionnelles, elle est plutôt assez souple. Et après il y a les accueils d'urgence.
Quand ils sont si petits comme ça, est-ce qu'ils restent confinés ou bien vous pouvez les sortir à l'extérieur ?
Nous, il n'y a pas de parc, ils ne sont pas contenus, ils ne sont pas confinés, ils sont libres, encadrés, surveillés par l'adulte référent qui est gage de sécurité, mais ils sont libres. Voilà. C'est-à-dire qu'ils évoluent avec les plus grands, les plus petits. Dès qu'ils peuvent se déplacer, ils se déplacent. Sinon, ils sont dans des espaces dédiés où l'aménagement de l'intérieur répond à leur sécurité affective et physique, ce qui permet que les plus grands savent que c'est là l'endroit où il y a les tout-petits. Les familles, maintenant, quand les deux parents travaillent, ils aiment bien la collectivité, puisque ça permet de sociabiliser les enfants. Alors, 2 mois et demi, non. Mais après, à partir de 9 mois, lorsqu'ils commencent à avoir les premières séparations avec papa ou maman, c'est vrai que la collectivité est intéressante, puisque ça permet d'éveiller l'enfant à autre chose que sa sphère familiale. Ah oui, on sort, tout à fait. À partir du moment où on respecte les nombres de professionnels par enfant pour sortir, on est très très favorable aux sorties. À Montauban, on travaille avec les EHPAD, on sort une fois par mois sur Montbeton, sur Montauban. Et après, c'est quelque chose qui se met en place. Elles s'observent beaucoup. Ouais, ils s'observent beaucoup. Et puis après, oui, il y a des interactions. Il y a des interactions qui sont très riches. Et puis, ça amène beaucoup de bien-être, que ce soit à la personne âgée, et le tout petit, c'est un peu la personne âgée est perçue comme un, comment dire, ben comme un nouvel objet en fait à observer, parce que certains n'ont pas leurs grands-parents, certains ne côtoient pas forcément des personnes plus âgées, et donc il y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant, et donc on alimente ça avec des animations, des temps partagés, et la récurrence fait que en général c'est des projets qui peuvent durer.
Comment se passent les repas ?
Alors les repas, ils sont pris dans la pièce de vie, tous ensemble. Ils sont un peu échelonnés en fonction des âges des enfants. Et après, pour les tout-petits, nous, on est adeptes de la pédagogie des repas dans les bras. C'est quelque chose qu'on fait depuis un an. Parce que les tout-petits ont quand même besoin de contact, surtout quand ils sont dans des structures collectives. Donc ils ont besoin de sentir que l'adulte est là et ça passe par le contact physique. Donc, on leur donne les repas aux tout-petits dans les bras, sur des fauteuils spécifiques.
Quel plaisir, je vais retourner en enfance, moi. Tiens, c'était bien cette époque-là.
Ça vous plaît, bon. Bah, vous serez les bienvenus, on vous enverra, on fera bien sûr une inauguration, certainement ça tombera dans les fêtes de Noël, donc ce sera très sympa. On couplera ça avec les festivités, je pense.
Est-ce qu'il arrive parfois que vous avez des parents un peu agressifs avec vous ? Ça arrive, ça aussi ?
Je sens plus de l'anxiété ou du questionnement ou du besoin d'être soutenu au niveau de cette période de la vie qui est la parentalité, qui peut se traduire par de l'agressivité quand on répond pas ou qu'on répond à côté. Donc, en fait, il suffit pour moi, la communication est la clé pour désamorcer l'agressivité.
Il arrive parfois qu'il y ait des enfants difficiles aussi, que vous avez du mal à maîtriser. Ça arrive, ça aussi ?
Oui, c'est tout le volet sur la gestion des émotions. C'est très en vogue. On voit de plus en plus dans les magasins ou dans les formations qu'on nous propose comment gérer l'émotion.
Donc le personnel reçoit aussi une formation, j'allais dire, psychologique ?
Sur ces sujets-là, oui. Oui, sur ces sujets-là. Et les parents aussi, on peut être amené à organiser des ateliers autour de ces thématiques-là. Ça se pratique de plus en plus.
Tout est en place, là, pour ouvrir cette micro-crèche à Pradines ?
Écoutez, l'équipe est au complet. On a eu l'occasion de faire des petits temps de formation, de discussion, de réunion sur l'aménagement de l'espace. Donc, maintenant, je pense que ça va démarrer sereinement. Les heures d'ouverture et de fermeture, c'est 7h45, 18h30.
Les modalités pour s'inscrire ?
www.lamaisondesbibis.fr sur le volet préinscription contact et vous pouvez remplir le formulaire et vous aurez une réponse de notre part.
Bon, bah alors je vais vous écrire alors.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Tourès. Passez une
Merci,
très bonne journée.
C'est un plaisir d'avoir pensé à nous et on vous suit.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.